Montpellier, ma ville.
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 Montpellier, ma ville, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de notre agglomération et de ses alentours. Chaque semaine, vous pouvez découvrir les temps forts de Montpellier et ses environs, que ce soit sur un plan politique, économique, social et culturel. Aujourd'hui, nous parlons de politique et de culture. En première partie de ce rendez-vous, la Tunisie est à l'honneur. Petit pays d'Afrique du Nord, d'à peine 11 millions d'habitants. Je dis pays petit, mais costaud. Nous savons tous depuis janvier 2011 qu'un vent de jasmin a soufflé dans tout le monde arabe et c'est ce qui a donné donc naissance au fameux printemps. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Zied Ahmed, président de la future association Le Pont Méditerranéen de la Solidarité. Bonjour Zied Ahmed.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs.
Vous avez organisé ce samedi 25 avril une conférence au Gazette Café à Montpellier avec pour thème la Tunisie au carrefour de son avenir, n'est-ce pas ?
Oui, exactement.
Et on y revient donc dans un instant. Pour le second volet de votre magazine Montpellier ma ville, il est question de culture, une culture de haute voltige. Normal car il s'agit du FIZ, ce Festival International des Sports Extrêmes. Un rendez-vous sur les berges du Lez pendant le week-end de l'Ascension du 13 au 17 mai prochain. Pour cela, Héloïse Tugot-Brigadis a reçu dans nos studios Hervé-André Benoît, créateur et également à l'initiative donc de ce grand rendez-vous incontournable de notre ville. Ce sera en seconde partie de ce magazine. Pour l'heure, cap au sud, cap au Café des Délices. Janvier 2011, une étincelle embrase le monde arabe. Le jeune commerçant de la commune Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, s'immole. Le printemps arabe est né. Il aura fallu 3 ans à la Tunisie pour réorganiser des élections démocratiques qui se sont très bien déroulées malgré les attentats commis pour intimider et surtout terroriser la population. Des attentats qui sont bien évidemment signés par les islamistes qui n'ont de philosophie, celle de la terreur. En mars dernier, un symbole fort de la Tunisie a été frappé, le musée du Bardo, un musée qui retrace toute l'histoire de la Tunisie. Au travers des siècles, le territoire de l'actuelle Tunisie a successivement été sous influence carthaginoise, phénicienne, romaine, byzantine, omeyyade, berbère, punique, ottomane et française. Cela a déclenché un vaste rassemblement de chefs d'État d'un peu de partout dans le monde, qui ont répondu présents aux côtés du nouveau président de la République, Béji Caïd Essebsi. À Montpellier, la communauté tunisienne a bien sûr réagi en se rassemblant autour de vous, Zied Ahmed. Vous êtes tunisien et président donc d'une future association qui aura pour nom le Pont Méditerranéen de la Solidarité. Alors, à quoi consistera cette association ?
Oui, l'association Pont Méditerranéen de Solidarité, ça émane un peu d'une volonté des jeunes Tunisiens qui sont ici à Montpellier. On s'est rencontrés lors d'un rassemblement qu'on a organisé juste après l'attentat du Bardo qui est survenu le 18 mars 2015. Donc on s'est rencontrés à la place de la Comédie justement, on a organisé une minute de silence et tout ça. Et après, on s'est mis d'accord tous ensemble d'organiser ou de mettre en place une association qui réunit non seulement les Tunisiens, et j'expliquerai après pourquoi c'est pas seulement les Tunisiens, ça ressemblerait les Tunisiens et encore les autres peuples de la Méditerranée, parce qu'on est tous conscients que la Méditerranée, c'est un bassin qui est indispensable, son avenir, sa prospérité est indispensable pour un meilleur avenir pour tous les pays du bassin méditerranéen. Donc c'est pour ça qu'on a nommé Pont Méditerranéen de Solidarité. Et pourquoi un pont ? Parce que aujourd'hui, pour prospérer, pour développer ce bassin, il faut être solidaire, il faut avoir des connexions, des coopérations entre les pays du Sud et les pays du Nord de la Méditerranée.
Oui, voilà. Complètement. Alors justement, j'aimerais revenir quand même sur ce qui s'est passé au Bardo. Hein. C'est un sacré symbole, n'est-ce pas ? D'autant qu'il y a quand même eu des touristes qui ont été touchés. Le Bardo, c'est un sacré symbole.
Exactement. Le musée du Bardo, en fait, il est... Pourquoi ? Bon, on va revenir pourquoi c'est un symbole. Parce que, tout simplement, le Bardo, il rassemble un peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, c'est un peu le rassemblement de l'histoire de la Tunisie qui a été marqué, on va dire, respectivement par les Phéniciens, par les Carthaginois, les Byzantins, les Romains, après il y avait les Arabes et tout ça, avant tout il y avait les Berbères. Donc il retrace un peu à travers des mosaïques, à travers des statues et tout ça, il retrace cette histoire très diversifiée, très riche, on va dire. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le musée du Bardo, c'est aussi un symbole parce qu'il chaque année, il a accueille, où il est le lieu d'une visite quotidienne de touristes tunisiens, de touristes internationaux qui viennent visiter cet endroit magnifique. Et du coup, ils ont essayé, ces terroristes-là, en tirant sur les touristes, de mettre à genoux le pays, parce que le tourisme reste un secteur important pour la Tunisie, important pour l'économie du pays. À travers, il est plus que 12% du PIB, il fait vivre plus que 100 000 familles en Tunisie. Donc ils ont essayé de mettre à genoux le pays sur ce côté-là. Et la troisième chose, et la plus importante qu'ils ont essayé de viser, c'est le processus démocratique qui s'est enclenché en Tunisie depuis la révolution, comme vous l'avez dit. La Tunisie a réussi à faire des pas géants en matière de démocratie.
C'est le seul pays du monde arabe qui a réussi.
Exactement. Si on le compare par exemple à la Libye, on le compare à l'Égypte et tout ça, la Tunisie, elle a réussi à faire une constitution libre, une constitution démocratique.
D'autant qu'ils ont réussi à préserver le droit de la femme.
Exactement, le droit de la femme, les égalités entre l'homme et la femme, la liberté d'expression, la liberté
qui existait déjà depuis 58, depuis Habib Bourguiba.
Exactement. Mais après,
les femmes travaillaient à un salaire égal avec un homme depuis.
Il faut aussi rappeler que la Tunisie était le premier pays arabe qui a mis en place, on va dire la. Une sorte de constitution pour garder tout ce qui est liberté de la femme, pour garder tout ce qui est liberté de l'expression et tout ça. Donc c'était c'est vraiment
une laïcité
qui est marquée depuis les années 50.
Alors le nouveau gouvernement travaille, mais on sent la population s'impatienter, surtout en matière d'économie, comme on vient de dire, car avant la révolution, il y avait déjà des problèmes économiques, mais là, en plus de ces trois années de transition, les quelques attentats qui sont survenus, et surtout le dernier qui a frappé lâchement des touristes, 22 morts au total, eh bien ça n'arrange pas vraiment les choses.
Oui, effectivement, ça n'arrange pas du tout les choses parce que, et il faut dire, il faut peut-être pour expliquer la situation actuelle, il faut revenir un peu en arrière et expliquer l'histoire des économies, des programmes de développement en Tunisie, des politiques de développement. Il faut savoir que juste après la colonisation, l'engagement de l'État, il était très fort dans les années 60-70. Après, dans les années 80-90, il y avait les politiques d'ajustement structurel qui ont été imposés par les grandes organisations internationales telles que l'FMI, la Banque mondiale, où ça a été marqué par un désengagement fort de l'État.
De l'État, oui.
Voilà. Et à ce moment-là, c'est ce qui est vraiment, c'est le grand tournant des politiques de développement dans les pays du Sud, où on a essayé à travers ces organisations de développer les régions qui sont à fort potentiel économique et de délaisser toutes les régions qui n'ont pas vraiment un potentiel économique. Oui. Donc, ce qu'on en voit aujourd'hui dans la Tunisie, c'est une côte qui est super développée avec des usines, des ports, des services et tout ça, et des régions intérieures, ce qu'on appelle les zones rurales, qui sont leur développement, il est basé que sur l'agriculture, et encore plus le secteur agricole, il est délaissé par l'État. Donc tout ça générait des zones délaissées, des zones oubliées, une jeunesse oubliée, des secteurs économiques très faibles, une infrastructure quasi absente et tout ça, ce qui a vraiment compliqué les choses jusqu'à la révolution. Et puis tout ça, ça a préparé cette révolution, ça a préparé ce soulèvement populaire qui aujourd'hui, le gouvernement, c'est un vrai défi pour lui de repenser toutes ces politiques, de revoir le développement de ces zones reculées, de ces zones d'ombre comme il les appelait avant. Et donc c'est vraiment un vrai défi de équilibrer le développement dans ce pays-là.
Et puis justement, puisque vous parlez de défis, lorsque vous avez organisé donc samedi 25 avril au Gazette Café cette conférence, le thème était « La Tunisie au carrefour de son avenir ». Alors beaucoup ont répondu présent, la salle était comble. Cela vous rassure qu'autant de personnes se soient déplacées et qui ont participé au débat, parce qu'il n'y avait pas que des Tunisiens, bien sûr.
Justement, ça me rassure dans le sens où aujourd'hui les gens ils sont solidaires avec ce pays, ils savent très bien, ils mesurent très bien l'importance
du parcours.
Ils font la part des choses parce qu'ils comprennent que aujourd'hui le terrorisme c'est pas seulement l'ennemi de la Tunisie, mais c'est un ennemi international. Et en plus, ça nous rassure du côté que les gens, on sent que les gens sont solidaires avec nous et qu'on n'est pas seuls. seul, on n'est pas seul face à ce défi-là. Et que, bon, après, avec la salle, on a bien discuté de ces politiques de développement et tout ça, et tout le monde est d'accord que ces inégalités, ces politiques de développement erronées vont encore renforcer le déséquilibre entre les régions et qu'il faut aujourd'hui repenser justement ces politiques de développement.
Alors justement, lors de cette rencontre, vous parliez de que la Tunisie, bon, bien sûr, elle a peu de ressources naturelles, elle compte beaucoup sur le tourisme, et donc vous avez appelé, à juste titre, vous avez incité les personnes à se rendre dans les régions peu touristiques qui ont un décor naturel extraordinaire, hein, que l'on connaît peu, mais quelles sont ces régions justement ?
Alors justement, pourquoi on a appelé les gens à aller visiter ces régions ? Parce que tout simplement, quand je reviens aux politiques de développement, dans les années 90-2000, il y avait un investissement de l'État dans certaines régions côtières. Djerba, Hammamet, Sousse, tout ça.
Et c'est pour ça que tout, voilà,
c'est pour ça que tout le monde, lorsqu'ils partent en Tunisie, tout le monde connaît ces trois régions-là. Alors que les autres régions intérieures de la Tunisie ont un potentiel énorme. Là, je cite par exemple la région de Doga. Doga, elle est au nord-ouest de la Tunisie. Avant de peut-être de citer ces régions, il faut peut-être préciser que malgré que c'est un petit pays, on a trois climats différents, trois régions différentes. On a le nord-ouest avec les forêts, la neige, les montagnes et tout ça. On a le centre.
Ça, c'est du côté de
L'Algérie.
Oui, de comment s'appelle cette ville, le nom m'échappe.
Ain Drahm et Tabarka.
Tabarka, voilà.
Voilà, Tabarka, c'est la région de Tabarka, le nord-ouest, côté algérien. Donc ça, c'est des montagnes, c'est la fin de la chaîne de l'Atlas qui s'étale du Maroc jusqu'à la Tunisie. Donc là, on trouve des montagnes, de la neige, des forêts très denses. Dans le centre, dans la région de Sidi Bouzid, Kairouan, Gasserine et tout ça, on a des plaines stépiques et tout ça. Et au sud, côté algérien et libyen, c'est le désert, c'est les oasis et tout ça. Donc, vous pouvez visiter dans ces trois régions différentes villes qui
différents
sont
décors, différents climats.
Décors, exactement, différents climats avec différents monuments. Si on trouve par exemple dans la région de Doga les ruines romaines, les ruines byzantines et tout ça, dans la région de Sidi Bouzid, on les retrouve encore à Sbit, là par exemple, au Gasserine côté algérien. Et dans le sud, on trouve un autre décor avec d'autres monuments parce qu'on trouve les ksours, c'est des fondations qu'utilisaient les berbères et les arabes pour stocker tout ce qui est des denrées alimentaires, de l'orge, du blé et tout ça. Donc voilà, donc c'est des régions qui sont vraiment mises à part. En fait, cette diversité de climat, cette diversité géographique, cette diversité de culture, ça a engendré une diversité dans le savoir-faire. Donc ça se répercute sur la cuisine, sur l'artisanat, sur l'agriculture. Donc si on se balade entre ces trois régions, on trouve des produits artisanaux très différents. Par exemple, au nord-ouest, on trouve des produits à base de laine, de mouton, tout ça. Dans la plaine, c'est-à-dire au centre de la Tunisie, on est plus sur des produits issus du cuir de chèvre et tout ça. Sur la région du sud, on trouve encore du cuir, mais cette fois-ci issu du cuir de dromadaire, de chameau et tout ça. Donc c'est une grande diversité qui trouve ses origines dans ces différentes civilisations qui ont marqué la Tunisie. Et bien sûr, lorsqu'on parle de gastronomie, il faut peut-être souligner que, en fait, le couscous, c'est pas le couscous qu'on connaît ici avec boulettes de viande et merguez et tout ça. Il y a différents types de couscous d'une région à une autre et encore entre les trois pays du Maghreb.
Le plus célèbre, c'est celui au poisson.
Oui, ça c'est la région de la côte, mais après on trouve différentes semoules et tout ça d'une région à une autre, ça c'est sûr.
Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ces... sur le terrorisme. 2015 a été malheureusement démarré sur les chapeaux de roue en matière de terrorisme. Paris, Kenya, là, le Bardo. Les salafistes à l'échelle mondiale prennent de l'ampleur, vous croyez ?
Oui, ils prennent de l'ampleur, c'est sûr, parce que malheureusement, on revient encore à l'histoire de ce déséquilibre de développement. Parce que pourquoi les salafistes ils prennent de l'ampleur ? Parce que tout simplement, il y a des conflits qui alimentent cette réflexion salafiste, ce mouvement salafiste. Il y a des conflits qui les alimentent et eux, ils trouvent la main d'œuvre, on va dire entre guillemets, ils trouvent leurs combattants, leurs soldats dans les zones oubliées par ces systèmes de développement.
Où le chômage est un véritable fléau.
Exactement, où le chômage est un véritable fléau, où la culture est absente, où l'éducation est aussi absente. en Tunisie, on le retrouve dans les quartiers populaires, on le retrouve dans les zones rurales. En France, on le trouve dans les cités, on le trouve dans les campagnes. Ici, on voit un peu le profil de ces jeunes qui partent en Syrie, qui partent en Irak et tout ça. C'est toujours des jeunes qui n'ont pas de travail.
Qui n'ont plus de repères.
Qui n'ont plus de repères, qui n'ont pas fait d'études et surtout qui ne sont pas cultivés. Parce que même si tu n'as pas fait d'études, si tu as un minimum de culture et tout ça, tu peux comprendre que ça, ce n'est pas le bon chemin. Donc c'est pour ça que le mouvement salafiste aujourd'hui, il est inquiétant.
Il est d'autant plus inquiétant parce que là, j'ai appris une chose, parce que j'y étais donc à cette conférence ce samedi que vous avez organisée. Et au cours de cette rencontre, l'un des intervenants a affirmé que ces mouvements terroristes ont bénéficié de techniques employées par les témoins de Jéhovah pour l'endoctrinement. Alors, finalement, ils sont bien structurés,
ils sont
bien organisés. Parce que bon, ils ont fait en sorte que des formations soient suivies.
C'est sûr, parce que si on voit que, bah, par exemple, moi comme Tunisien, jeune Tunisien, je vivais dans un quartier parce que j'ai grandi à Tunis et tout ça, il y a pas mal de jeunes Tunisiens qui sont partis en Syrie et qui habitaient dans mon quartier. Ces jeunes-là, je les connaissais. Et ils avaient un minimum de logique dans leur tête. Donc pour les recruter, pour aller en Syrie, je pense que certainement il y a des recruteurs qui sont en place dans ces pays-là, qui ont été formés, qui maîtrisent les techniques de communication pour justement endoctriner ces jeunes-là, pour les changer un peu leur façon de voir les choses et qu'ils arrivent vraiment à les convaincre qu'en donnant leur vie en Syrie, ils vont sauver le monde ou ils vont faire quelque chose. Donc c'est vraiment des gens...
C'est un véritable lavage de cerveau. Alors, la Libye reste un problème également pour la Tunisie, n'est-ce pas ?
Exactement. Un vrai problème parce que ce qui n'est pas connu ici en France et ce qui n'est pas vraiment détaillé par les médias, c'est qu'il y a 2 millions de Libyens en Tunisie aujourd'hui. 2 millions de Libyens, c'est pas 100 000, c'est pas 5 000, c'est pas 2 000.
Pour le petit pays que c'est.
Pour 11 millions d'habitants, on a 2 millions de plus de Libyens. Avec tout ce que ça génère et avec tous les impacts qu'on peut avoir côté inflation et tout ça. Donc là, c'est le premier problème, c'est-à-dire tout ce qui est les répercussions sur le secteur économique. Et deux, c'est le problème, la menace terroriste. Parce qu'en Libye, aujourd'hui, on assiste à un véritable carnage en Libye.
On ne
comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Il y a Daesh, il y a Acmi, il y a, comment il s'appelle en nigérien, Boko Haram, qu'ils ont rejoint Daesh. Il y a les frères musulmans et vraiment on a un paysage de groupes terroristes qui se battent entre eux pour justement avoir le contrôle, le pouvoir et le contrôle de cet État.
Un mot sur votre parcours, Ziad Ahmed. Donc,
Oui, en fait, moi, je suis de formation ingénieur agroéconomiste. J'ai fait mon diplôme à l'Institut National Agronomique de Tunis. Après, je suis venu ici à Montpellier pour faire un master et tout ça. Et actuellement, je travaille au Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes et plus précisément à l'IAM de Montpellier, l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. Et on travaille sur... on a un focus très, très... poussé sur la Méditerranée. On travaille sur tout ce qui est développement agricole et rural dans la zone méditerranéenne, avec des projets de développement bilatéraux et multilatéraux, c'est-à-dire on travaille.
Donc c'est pas uniquement sur les pays du Maghreb, hein.
Non,
c'est également
toute la Méditerranée.
Au Portugal. Enfin, non, le Portugal c'est pas dans la Méditerranée, mais ça en fait partie.
On travaille avec
l'Espagne.
Oui, l'Espagne, la France, l'Italie, les pays du Balkan, la Turquie, la Cisjordanie, la Syrie, le Liban. Vraiment
tout le bassin donc méditerranéen.
Tout le bassin méditerranéen, voilà.
Et donc pour cette association donc qui est sur le point de qui est en cours, hein, qui est en train de se créer. Alors vous êtes entouré de qui?
Alors justement, je suis entouré de jeunes Tunisiens aussi qui sont à Montpellier et en plus de collègues. Donc leur profil, il varie. Il y a des étudiants, des thésards, des commerciaux, de différents domaines qu'on essaye de mettre à à la disposition de mettre leurs compétences à la disposition de l'association pour essayer de monter des projets de coopération, des relations fondées sur le partage, sur la communication entre les deux rives de la Méditerranée dans les différents domaines. Ça sera un peu sur la culture, sur le développement agricole et rural, parce que je suis très attaché à ce truc-là. Et en plus sur tout ce qui est, on va dire, éducation, culture, société, droits de la femme et tout ça.
Très bien. Ziad Ahmed, merci. Merci de vous être déplacé et de nous faire part de votre mobilisation. Pardon. Au passage, un grand bonjour à monsieur Hatim Jaibi Ricardi, hein, qui travaille également avec vous.
Hein, oui,
qui a participé donc, à cette
exactement. rencontre. On l'a invité, il a répondu présent, il a fait vraiment des interventions très 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 intéressantes et il est connu pour ça.
Merci Ziad Ahmed.
Merci beaucoup, merci.
On marque une pause, je vous invite tout de suite à prendre une collation. Où ça ? Eh ben, au Café des Délices. Vous êtes sur FM+, et vous faites bien.
Tes souvenirs se voient, ça fait comme une éclipse. Une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au Café des Délices. Tes souvenirs se voient, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au Café des Délices. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 yalil. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à Port El Kantaoui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voient, tu les aimais ces fruits, les noyaux d'abricots, pour toi c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Amamet. Yalil, yalil. À l'avant du bateau et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, yalil, ces parfums d'autrefois. Yalil, yalil, tu n'oublieras pas. Yalil, même si tu t'en vas. Yalil, yalil, habibi yalil. Yalil, yalil, habibi yalil. Des voiles
Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Montpellier, ma ville, votre magazine hebdomadaire qui vous fait part des temps forts de Montpellier et ses environs. En première partie, nous étions avec Ziad Ahmed et de la future association Le Pont Méditerranéen de la Solidarité qui se met en place très prochainement. Nous avons évoqué les différents donc, changements et challenges que doit affronter la Tunisie. Tout de suite, place au sport. Héloïse Tugot-Brigadis a reçu dans nos studios Hervé-André Benoît, fondateur d'un grand événement qui se déroule tous les ans sur les berges du Lesse. Il s'agit bien sûr du FIS, Festival International des Sports d'Extrême. Du 13 au 17 mai prochain, Montpellier brillera dans le monde entier car c'est un rendez-vous incontournable pour tous les adeptes de ces sports extrêmes dans le globe. Héloïse Tugot-Brigadis.
Au cœur de Montpellier, cette année encore, le FIS, plateforme incontournable des sports de glisse, investit les rives du Lesse du 13 au 17 mai. Le Festival international de sport extrême accueille sur les 5 jours 2000 athlètes professionnels et amateurs qui font vibrer chaque année de plus en plus de passionnés et de curieux. Les incontournables du FIS comme le skate, le roller ou le BMX laissent un peu de place aux petits nouveaux depuis quelques années, la trottinette et le slake. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir celui qui est à l'initiative de ce festival, Hervé-André Benoît, il y a 19 ans déjà. Il préside aujourd'hui l'association FIS. Bonjour Hervé-André Benoît.
Bonjour.
Alors vous qui êtes à l'initiative de ce festival aujourd'hui, de renommée mondiale, racontez-nous comment il est né.
Il est né de près de 35 ans de passion pour ces disciplines-là. Donc c'était un projet étudiant quand j'étais au sein de Subdeco Montpellier, en deuxième année précisément. L'objectif était de monter, d'avoir une idée, essayer de monter un projet. Donc avec quelques copains de Subdeco Montpellier, on a eu l'idée de regrouper différents sports de glisse. À l'époque, on avait encore la planche à voile. Donc on avait fait venir en 97 notamment Robin Esch, et était déjà présent le skate, le roller, le BMX. Et notamment, on avait fait un très beau contest de BMX Dirt la première année. Et dès cette première édition, 97, succès populaire, près de 25 000 personnes étaient venues regarder l'événement et on a eu quelques centaines de riders qui étaient venus et l'histoire était partie, voilà.
D'accord, c'est super. Et donc au fil des années, le festival il a évolué forcément, il s'est diversifié. Qu'est-ce qui a changé depuis le début ?
C'est vrai que l'objectif du FIS, c'est déjà d'arriver à donner une exposition populaire et médiatique à nos disciplines. Étant passionné, moi, mon objectif principal, c'est de transmettre cette passion et d'avoir chaque année, chaque jour, de nouveaux petits jeunes riders qui se mettent à pratiquer nos sports parce que elles sont vraiment, elles apportent énormément de bonnes valeurs, de repousser ses limites. C'est des sports individuels, mais qui ne peuvent se pratiquer qu'avec un groupe d'amis ou de copains en tribu, comme on le dit souvent. Donc, qu'est-ce qui a évolué au travers de ces 19 années? C'est bien sûr la possibilité d'avoir de nouveaux partenaires, de sponsors, parce que sans apport financier, il est difficile pour un événement gratuit de pouvoir exister et se développer. Donc, on a eu différents partenaires qui sont venus. Aujourd'hui, en 2015, on a un gros soutien de la région Languedoc-Roussillon, de la métropole qui a augmenté ses subventions cette année, de la ville de Montpellier. On a Virgin Mobile, anciennement SFR, qui est toujours présent. On a la marque de téléphone Honor, GoPro, qui sont présents aussi et qui donc nous permettent de pouvoir, justement, au travers des années, intégrer une nouvelle discipline. On a parlé tout à l'heure donc de la trottinette, qui est un des jeunes venus. Cette année, pour la première année, on aura une compétition amateur en trottinette. Le mountain bike a apparu il y a 8 ans, le wakeboard a apparu il y a une douzaine d'années sur le FIS. Donc c'est aussi notre objectif de, si de nouveaux sports apparaissent, de venir les faire connaître, et puis si vraiment ils perdurent, de les ancrer dans l'événement. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur le FIS on a 11 compétitions différentes qui sont représentées. On a ouvert également depuis quelques années aussi la compétition aux filles, Girl Contest, l'objectif étant aussi de montrer que les filles ont la place dans ce sport là ce n'est pas que des sports d'hommes. Au début, c'est un peu l'image qu'on en avait. L'objectif aussi était d'arriver à faire que tous ces sports puissent vivre ensemble, ce qu'on a réussi également. Ça a été compliqué les premières années, mais maintenant il n'y a plus du tout de problème entre chacune des disciplines, et au contraire chaque rider respecte la discipline de son voisin. Donc voilà, et puis c'est d'arriver à faire ce qu'on a aussi maintenant. C'est un événement qui rassemble près de 500 000 personnes sur les 5 jours et qui donc, au travers de ces 500 000 personnes, bah, crée de nouvelles passions, de nouveaux jeunes qui vont vouloir aller dans un surf shop, acheter une planche de skate, d'aller acheter un BMX, une trottinette, un wakeboard, et puis de s'y mettre, d'aller dans les clubs existants aussi pour pouvoir apprendre, notamment pour les plus jeunes qui, les parents préfèrent les confier justement à des moniteurs. Donc voilà, c'est d'arriver à structurer tous ces sports-là.
D'accord, bon, mais c'est génial. Et donc c'est un festival, vous l'avez dit, qui rassemble beaucoup de monde. C'est né à Montpellier et aujourd'hui c'est exporté dans le monde. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ?
Alors déjà, une fois de plus, ça fait 19 ans qu'on y est, donc ça s'est pas fait en un jour. L'objectif, comme je disais, c'est de structurer ces disciplines-là. Donc on a organisé depuis ces dernières années pas mal d'événements étrangers. On avait fait pendant 5 ans en Tunisie notamment des événements où on avait créé un championnat tunisien, en Algérie, au Maroc. On avait fait à Dubaï, on avait fait au Costa Rica. Et depuis 2014, l'objectif était de vraiment faire un circuit mondial, FIS World Series. Circuit qui n'existe pas actuellement dans le monde, justement regroupant donc crossover plusieurs disciplines, et donc en 2014 on a fait une étape à Montpellier, une étape à Andorre, une en Chine et une en Malaisie, avec derrière ça un classement général, avec un prize money, c'est-à-dire de l'argent qu'on distribue à la fin de l'année aussi en fonction du classement. L'objectif, il est d'amener une clarté aussi au grand public, aux médias, de savoir qui est le meilleur, qui est le cinquième, et de chaque année d'avoir notamment les têtes de ces riders qui reviennent, qu'on puisse reconnaître, de starifier un petit peu tous ces riders. Et c'est pour ça qu'en parallèle, on travaille aussi beaucoup avec les fédérations pour pouvoir avoir leur soutien et puis leur apporter notre soutien aussi pour gérer un circuit mondial et individuellement dans chaque discipline des fédérations comme l'UCI ou la FIRS justement souhaitent qu'en 2016 on soit officiellement reconnu par leur fédération.
D'accord, et donc vous parliez tout à l'heure des riders, c'est des disciplines, beaucoup de disciplines. Quels sont, sur ces 5 jours à Montpellier, quels sont les moments forts, les noms à retenir, votre coup de cœur, j'aimerais vous demander?
Oh, c'est difficile de parler de coup de cœur. C'est vrai que depuis 10 ans, moi, je suis passionné, notamment personnellement, par une discipline qui est le wakeboard, mais je dirais pas forcément que c'est le coup de cœur du FIS. On a toujours la grosse finale BMX Park le dimanche à 17h30. C'est sûr que c'est un des gros temps forts, mais dès le mercredi déjà, vous avez les demi-finales pro en mountain bike, en skateboard. Et c'est le principe de l'événement, c'est que quel que soit le jour que vous veniez, vous aurez des pros, vous aurez des amateurs en compétition, le meilleur niveau qui sera présent avec une ambiance la plus chaude possible pour que le niveau soit le plus haut possible. On a cette année le samedi soir à partir de 21h à l'Arena le freestyle motocross où on a essayé cette année de rajouter encore du show supplémentaire avec la présence du quad, essayer de scénariser encore plus cette soirée un peu originale, je dirais. Donc vous avez des gros temps forts le jeudi soir et le vendredi soir, on le sait, sur le parvis de la mairie où on a les demi-finales et les finales BMX Spine Ramp. Où là on attend près de 20 000 personnes sur ces finales là et c'est toujours une ambiance qui est chaude parce que c'est un spectacle, une compétition de nuit, et les riders l'attendent vraiment depuis quelques mois, cette grande finale. Et puis comme je vous disais, la venue aussi de la trottinette sur la rampe à Spine sur le parvis de la ville, où on aura du skate et du roller également sur cette rampe à Spine. Je dirais que dès mercredi 10h du matin et ce jusqu'à dimanche 19h, 20h, il y en aura pour tout le monde, je dirais, que tout le monde se fera plaisir.
D'accord, bon ben super alors. Donc moi j'ai une autre question aussi, le festival c'est un événement de grande envergure et ça rassemble des milliers de personnes, pourtant il est labellisé Eco-Event. Alors qu'est-ce que ça veut dire un Eco-Event ?
Alors cette logique Eco-Événement, je crois qu'aujourd'hui on a depuis près de 8 ans. On était un des premiers gros événements, gros festivals confondus musique ou sport à avoir développé l'Eco Cup, par exemple, le principe d'avoir un verre consigné pour pas avoir à jeter des gobelets en plastique. Ça paraît naturel aujourd'hui, mais il y a près de 8 ans, les concessionnaires qui vendaient ne souhaitaient pas rentrer là-dedans, les a forcés là-dedans. On a l'ADEME qui nous a soutenus pour transformer le mode de traction qu'on avait en wakeboard, qui était des jet skis, en système électrique avec des téléskis. On a tout un programme d'utilisation de papier recyclé pour l'ensemble de nos supports. On a aussi, au niveau de la nuisance sonore, la pollution sonore, justement, avec lequel on travaille beaucoup avec les riverains, justement, pour faire qu'il y ait une cohabitation entre l'événement et les riverains. Donc, des limitateurs de son pour éviter cette pollution sonore. On a des recycleurs de canettes, notamment avec la métropole. Donc, on met beaucoup de mesures en place, justement, pour montrer que nos sports aussi sont à l'image de notre planète et qu'on a besoin de la sauvegarder et de mettre en place des actions qui, à la fois, sont concrètes, mais aussi médiatiques pour soutenir toute cette démarche qu'il peut y avoir maintenant au niveau national ou international pour préserver notre planète.
Vous invitez une nouvelle fois le street art au FIZ avec Monsieur BMX et ses vélos suspendus qu'on connaît à Montpellier. Il y a une exposition, des live paintings, il y a quoi d'autre pour participer? Qu'est-ce qu'on peut voir, faire en tant que spectateur?
Bah, l'objectif de cette exposition, c'est d'arriver à mélanger à la fois l'art et le sport. C'est pas forcément si évident que ça. Je crois qu'aujourd'hui, justement, cette logique de street art reprend des fondamentaux et des valeurs de nos sports aussi, qui font bien sûr partie de l'art, mais qui ne sont pas forcément dans le sport, qui sont la liberté d'expression, justement, sans avoir trop de règles bien précises. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai point de rencontre entre sport et culture à cet endroit-là. Ce qui est bien aussi, c'est que ce street art, c'est une nouvelle tendance aussi, comme nos sports, et je pense qu'elle est vraiment dans la mentalité des jeunes d'aujourd'hui, justement, d'enlever des règles et des choses toutes pensées, toutes dessinées déjà. Donc, et je pense qu'il y a un très gros avenir pour le street art, et je pense que cette expérience de cette année, si elle se révèle être une réussite et populaire, un succès populaire, on ira vraiment au maximum dans cette voie-là et dans cette association entre sport et culture.
Street art et les sports de glisse, très intéressant comme mélange. Est-ce qu'il y a des animations prévues auxquelles on pourra participer?
Alors, c'est le principe de l'événement, c'est de vouloir bien sûr avoir les meilleurs riders de la planète qui soient présents, pour qu'on voie le niveau international, mais c'est aussi d'avoir des amateurs qui puissent justement, qui connaissent déjà ces disciplines-là, mais qui puissent commencer à se mettre en compétition et pouvoir prendre du niveau, passer du temps avec leurs stars qui sont en poster dans leur chambre et qui soient à côté d'eux sur un parc. Mais il y a aussi des aires d'initiation, des aires d'initiation en wakeboard, des aires d'initiation en skate, en roller et en BMX, où du coup, des jeunes vont pouvoir venir, ou moins jeunes d'ailleurs, s'essayer, prendre du matériel, toucher, avoir des moniteurs. On le fait notamment avec l'UCPA, justement, qui nous aide dans cette partie-là, dans cette pédagogie-là. Il y a aussi nos différents partenaires qui vont être présents, comme Honor, comme Virgin Mobile, comme GoPro, où on va pouvoir justement vivre leur expérience de leurs produits. Alors essayer justement le nouveau téléphone Honor avec une double caméra, par exemple, pouvoir profiter des différents cadeaux, goodies que vont offrir les différents autres partenaires. Il y a une distribution de pommes gratuite. L'objectif, c'est que c'est un événement qui est gratuit déjà, mais que le public n'a pas juste à regarder, mais peut vraiment aussi vivre l'événement. On essaye de le faire relier, enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on fait en live, justement, à la fois sur l'événement, mais aussi derrière, sur Internet, quand le public va rentrer chez lui, il va pouvoir continuer à suivre sur Internet l'événement. Vraiment cette interactivité, donc pour que tout le monde se sente impliqué dans cette discipline-là, et pas seulement acteur et spectateur.
D'accord, donc vous l'avez dit, le Festival International de Sport Extrême, c'est gratuit. Et donc vous avez toujours un public de plus en plus nombreux. Et en parlant de ce public, c'est qui vient voir le FIZ?
Alors, il est vrai qu'on a une majeure partie de 12-28 ans, qui va peut-être représenter 70 à 80% de notre public, qui d'ailleurs maintenant est vraiment mixte, hommes et femmes. Mais l'originalité de cet événement, et notamment depuis qu'on est au Berge du Lez, c'est que on a des grands-parents qui amènent leurs enfants, on a bien sûr des parents qui amènent leurs enfants aussi, mais c'est vraiment intergénérationnel. C'est un événement de différents milieux socio-professionnels aussi. On y voit absolument toutes les différentes catégories qui représentent notre société aujourd'hui. Et je crois justement qu'il n'y a personne qui se sent à l'écart de cet événement, et quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le niveau socio-professionnel que les personnes ont, elles vont être intéressées par cet événement. Donc C'est vrai qu'au-delà de cet événement sportif, un peu culturel qu'on peut être aussi, c'est un vrai événement de cohésion sociale et j'essaye souvent de le mettre en avant parce que c'est pas si évident que ça aujourd'hui de se retrouver tout public confondu sur un seul et même événement, avoir un intérêt pour un seul et même événement. Et je pense que le FIS a cet atout-là et j'espère qu'on va continuer à perdurer cet esprit-là et même le développer encore plus si c'est possible.
Bon, bah c'est super. Alors donc, on donne rendez-vous à tout le monde du 13 au 17 mai pour 5 jours de show et de sport sur les rives du Lez. Merci Hervé-André Benoît. On se retrouve très vite sur les rives du Lez. Merci.
Merci à vous de m'avoir invité et puis à très bientôt sur les berges du Lez. Au revoir.
Merci à Héloïse Tugo Brigadis. C'était Montpellier ma ville, votre magazine hebdomadaire. Je vous souhaite une excellente journée sur FM+ et vous dis à très vite. Bye bye.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.
Montpellier, ma ville.